En ce sens que je l'ai déjà abordé il y a 3 ans, je ne me rappelle plus, et inévitablement, je me redirai un peu, je vais citer quelques textes que j'ai déjà probablement lus, mais je pense qu'il n'est pas inutile de revenir sur ce sujet qui est très fondamental. La thèse chrétienne et que nous envisageons aujourd'hui plus spécialement dans son rapport au mystère pascal, au mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Tout d'abord, quelle est la signification de la thèse dans le christianisme? Il faut y insister, la thèse, l'ensemble des pratiques ascétiques ne peuvent pas être considérées comme des œuvres humaines qui auraient une efficacité en elles-mêmes, par elles-mêmes, pour le salut, pour atteindre la perfection chrétienne. Le principe fondamental du Nouveau Testament, qui a été particulièrement énoncé par saint Paul, mais qui n'est pas une doctrine propre à saint Paul, c'est que l'homme n'est justifié que par la foi dans le Christ et non par les œuvres de la loi. Les textes tout à fait classiques à ce sujet sont celui de l'Épître aux Galates, Galates 2, 13. Un texte que vous connaissez bien évidemment. Nous savons bien que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi au Christ Jésus. Nous avons cru, pour notre compte, à ce Christ Jésus pour être justifié par la foi en lui et non par les œuvres de la loi, car personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, d'abord versets 21-25, « En ces temps donc, ces temps qui sont les derniers, les temps eschatologiques inaugurés par l'avènement du Christ, en ces temps donc s'est manifesté, indépendamment de la loi, la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, à savoir la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'usage de tous les fidèles. » Quand saint Paul parle de justice de Dieu, il ne s'agit pas de justice distributive, de rétribution ou condamnation. La justice de Dieu, en ce sens, c'est l'œuvre par laquelle Dieu justifie l'homme. C'est le don à l'homme de la justice de Dieu. Du coup, c'est l'œuvre du salut, c'est le don qui est fait à l'homme de la sainteté dans l'Esprit Saint. C'est ça, la justice de Dieu, telle que l'entend saint Paul ici. Mais cette justice de Dieu, ça pour tous les fidèles, pour tous ceux qui croient, s'obtient par la foi en Jésus. Car il n'y a plus de distinction entre juifs et païens, entre juifs et gentils, tous ayant péché, tous étant privés de la gloire de Dieu. La justification est désormais toute gratuite par sa grâce à cause de la rédemption du Christ Jésus. C'est lui que Dieu a publiquement exposé comme instrument de propitiation qui opère par la foi en son sang. Et un peu plus loin, toujours dans cet Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 28, la conclusion est donc que l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Quel est le sens de cette doctrine? C'est que l'homme ne peut être justifié, ne peut faire le bien, ne peut atteindre le salut, que si le Christ ressuscité envoie dans son cœur son esprit. Et vis-à-vis de ce don de l'esprit, ce que nous avons à faire simplement, c'est de l'accueillir dans la foi. Quand saint Paul parle de justification par la foi et non par les œuvres, cela veut dire que ce don de la justification, que ce don de l'Esprit Saint, n'est pas quelque chose que nous puissions obtenir par une œuvre humaine, mais qui est un don entièrement gratuit de Dieu. Nous n'avons autre chose à faire qu'à l'accepter dans la foi et y correspondre dans la foi. Comme nous le verrons, cela ne nous dispense pas d'une activité qui nous est propre, mais qui n'a rien à voir avec les œuvres de la loi telles que l'entendait les contemporains de saint Paul. Et c'est dans cette perspective que saint Paul, alors, n'hésite pas à condamner dans son épître aux Colossiens toute fausse ascèse. C'est un texte qu'il faut bien entendre parce qu'on pourrait évidemment en tirer une condamnation, un rejet de toute pratique d'ascèse, mais ce n'est pas cela que vise saint Paul. Ce que vise saint Paul, c'est une ascèse qui voudrait être à elle-même sa propre raison d'être, sa propre fin. Et une ascèse par laquelle on croirait pouvoir obtenir un résultat qui lui soit proportionné. Voici ce texte de saint Paul. C'est donc dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 23. Il vient donc de parler encore de cette justification par la foi dans le Christ, et il en tient les conclusions suivantes. Que personne ne vienne donc vous condamner à propos du boire et du manger, ni en matière de fête, de néoménie et de sabbat. Ce n'était là que des figures de la réalité à venir qui est le Christ. Et cet ainsi de saint Paul est particulièrement important parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus effectivement de place pour toutes les réalités de la loi juive, tous les préceptes à la fois rituels, cérémoniels et même simplement moraux. Il n'y a plus de place pour ces préceptes dans la mesure où ils étaient des consignes extérieures, des préceptes extérieurs donnés à l'homme qui était censé devoir les appliquer par ses propres forces, par son propre effort et sur la base simplement de la capacité, de sa volonté et de son libre arbitre. Mais, saint Paul nous dit, tout cela n'est que des figures de la réalité à venir qui est le Christ. Et nous pouvons effectivement, dans le Nouveau Testament, retrouver beaucoup de choses qui semblent correspondre à des préceptes d'Ancien Testament, mais qui n'ont plus de raison d'être en eux-mêmes, qui n'ont plus de raison d'être en eux-mêmes, qui sont entièrement relatifs au Christ et qui ne sont plus présents sous la loi nouvelle qu'en tant que signe efficace de la présence du Christ. Il ne faut pas croire que, dès lors que nous maintenons dans l'Église un certain nombre de choses qui appellent l'Ancien Testament, nous judaïsons, en quelque sorte. Nous sommes infidèles à l'esprit de saint Paul et de l'Évangile. Saint Paul, par exemple, n'hésite pas à dire, n'est-ce pas, que sous le Nouveau Testament, il n'y a plus qu'une multiplicité de sacrifices, il n'y a plus que le sacrifice unique du Christ. Bon, cela ne condamne pas le caractère sacrificiel de la liturgie eucharistique. Seulement, la liturgie eucharistique n'est plus un sacrifice ayant sa signification en lui-même et étant valable par lui-même. Le sacrifice eucharistique est simplement le signe, n'est-ce pas, le signe efficace de la présence de l'unique sacrifice du Christ. De même, le temple de Jérusalem est aboli. Cela ne veut pas dire que dans l'Église, il n'y a plus de temple de pierre, il n'y a plus de lieu de culte. Mais le temple de pierre est le signe de la présence du véritable et unique temple du Nouveau Testament, qui est le corps du Christ. Le corps du Christ, le corps personnel du Christ, auquel nous sommes comme soudés, comme agrégés par la grâce de l'Esprit pour former son corps qui est l'Église. Et l'Église de Pierre n'est pas autre chose que le signe sensible de la présence de ce véritable temple unique qui est le corps du Christ. Et nous pouvons étendre cela, au fond, à toutes les réalités de l'Église, n'est-ce pas, dans la mesure où elle rappelle des choses d'Ancien Testament. Tous les sacrements, tous les rites de l'Église, n'est-ce pas, ne sont pas des réalités légales au sens de l'Ancien Testament, car elles sont toutes simplement la présence du Christ parmi nous. Et de même, les préceptes d'ordre moral de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ne sont plus des préceptes ayant leur signification en eux-mêmes, là encore, qui seraient des sortes de lois, de consignes données à l'homme de l'extérieur pour qu'il les applique et obtienne en retour une récompense divine. Tout cela n'est pas autre chose que le signe, que l'expression de la présence du Christ et de son esprit dans nos cœurs. Il n'y a plus de loi extérieure dans le Nouveau Testament, il n'y a même plus de décalogue au sens de table de pierre sur lequel serait gravée une loi divine, mais Tout est gravé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous est donné par le Christ ressuscité. Et tout ce qui est loi, tout ce qui est précepte sous le Nouveau Testament n'est rien d'autre que l'expression, la formulation de ce dynamisme qui est inscrit en nous, de cette loi de vie qui est inscrite en nous par la présence de l'Esprit du Christ ressuscité. C'est tout cela qui évoque, n'est-ce pas, ce mot de Saint Paul, ce n'était là que des figures de la vérité à venir qui est le Christ. Et s'attacher à ces vérités extérieures comme si elles avaient une valeur en elles-mêmes, sans avoir en vue leur attachement au Christ et le sens qu'elles prennent de la référence au Christ qui est à lui seul toute la réalité du Nouveau Testament, ce serait retomber effectivement dans le judaïsme au sens devenu péjoratif du terme. Saint Paul poursuit. Que personne ne vous ravisse la palme en vous engageant dans des pratiques surérogatoires d'humilité ou en un culte des anges. Ces gens-là s'appuient sur des visions d'illuminés, ridiculement enflées de leurs pensées charnelles. Le texte est un peu difficile et les traductions varient selon les éditions, les traductions du Nouveau Testament, mais le sens général est quand même assez clairement perceptible. Donc ces gens-là s'appuient sur des visions d'illuminés, ridiculement enflées de leurs pensées charnelles. Il peut s'agir ici de prétendues révélations qu'avaient les docteurs judaïsants de Colosse. Cela peut signifier simplement aussi qu'ils s'appuient sur des réalités tangibles, n'est-ce pas, des réalités de ce monde. Séparés de la tête, de laquelle tout le corps, desservi et uni par ses attaches et ses liens, tire son accroissement divin. Donc le sens général du passage, qui n'est pas très clair dans le détail, c'est que tous ces faux docteurs de Colosse qui veulent ramener les Colossiens à des pratiques judaïsantes donnent une signification en soi à des pratiques d'ascèse, à des pratiques inspirées de la loi juive, peut-être en se basant sur de prétendues visions et révélations personnelles, et en tout cas, séparés de la tête qui est le Christ, ne les comprenant pas en référence à cette présence du Christ dans les cœurs, mais leur donnant, encore une fois, une signification en elle-même et faisant dépendre la justice, le salut, d'une œuvre humaine, de l'action, de la liberté humaine, sans référence à cette action de l'Esprit dans les cœurs. Si donc vous êtes mort avec le Christ à ces éléments du monde, à cette loi extérieure qui était la loi juive, pourquoi vous laissez dogmatiser dans le monde comme si vous étiez encore vivant? Si donc vous êtes mort avec le Christ, et le texte lui-même, n'est-ce pas, évoquerait l'idée d'un acte par lequel nous sommes morts avec le Christ, c'est-à-dire le baptême. N'est-ce pas ? Si vous êtes mort par le baptême avec le Christ au monde présent, à une loi extérieure, contraignante, parce que l'Esprit Saint maintenant vit dans vos cœurs, eh bien pourquoi vous laissez imposer de l'extérieur des règles, des normes, des préceptes par ces faux docteurs judaïsants? Défense de prendre ceci, défense de goûter, défense de toucher, dit saint Paul. Ce sont là des choses qui se corrompent à l'usage. Puis ce sont des règlements et des préceptes émanés des hommes. Enfin, ils n'ont qu'une apparence de sagesse avec leur culte systématique des anges, leur pratique d'humilité et les mortifications corporelles et tout leur honneur prétendu qui ne va qu'à la satisfaction de la chair au sens paulinien du mot, c'est-à-dire à ce sentiment de l'homme qui veut se justifier par lui-même, qui veut parvenir par son propre effort, par ses propres forces au salut, à la justice. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre ce texte de saint Paul en le replaçant dans tout le contexte du Nouveau Testament, ne pas y voir une condamnation de toute pratique ascétique, pas plus qu'il ne fallait voir dans les critiques des prophètes que les prophètes dans l'Ancien Testament adressaient aux jeûnes ou à certaines pratiques rituelles une condamnation du culte en soi ou du jeûne en soi, mais il y a ici une condamnation donc de toute ascèse qui tendrait à vouloir s'ériger en absolu. Une ascèse qui ne serait pas relative au Christ et qui ne serait pas fondée avant tout sur la foi au Christ, sur une remise totale de soi à ce dynamisme intérieur de l'Esprit Saint qui seul peut nous permettre de vaincre le péché, qui seul peut nous permettre de pratiquer la volonté de Dieu. Et nous sommes assez peu tentés aujourd'hui, évidemment, par des pratiques inspirées du judaïsme. Notre situation n'est plus la même que celle des chrétiens de Colosse, mais nous pouvons être tentés tout de même de chercher, pour favoriser notre vie spirituelle, un appui dans des techniques, que ce soit des techniques de méditation, que ce soit dans un sens plus large, des techniques spirituelles, souvent d'inspiration extrême orientale. Et nous pourrions retomber par là exactement dans le même danger que celui qui guettait les chrétiens contemporains de saint Paul. Je me souviens qu'au cours d'une conversation que j'avais eue avec un homme qui est d'ailleurs remarquable en lui-même, mais qui est profondément inspiré par l'extrême-orient et qui n'est pas vraiment chrétien dans son enseignement, Arnaud Desjardins, dans une conversation que j'ai eue avec lui, il me disait qu'il était surpris et un peu scandalisé de ce que dans les monastères chrétiens qu'il a fréquentés, il n'a pas trouvé dans la pratique des techniques spirituelles le sérieux, l'absolu, l'intransigeance qu'il a rencontré dans les monastères, soit hindous, dans les ashrams hindous ou dans les monastères bouddhistes. Et effectivement, quand on fréquente de ces centres spirituels bouddhistes notamment, on peut être frappé évidemment de l'exigence, de la rigueur avec laquelle des techniques spirituelles sont appliquées. Pas très loin de notre monastère, il y a ainsi un centre tibétain où sont des lamas tibétains fort estimables et fort sérieux, et ils organisent pour leurs adeptes occidentaux des sessions d'une semaine pendant lesquelles on pratique une méditation très rigoureuse de 7 heures par jour. 7 heures et jusqu'à parfois 9 heures, mais au moins 7 heures de méditation par jour. Évidemment, les gens qui viennent chez nous au monastère ne sont pas astreints à 7 heures de méditation par jour. Nous avons des offices, mais l'y assistance n'est même pas obligatoire. Ça. Et ceci ne paraît pas sérieux à un homme comme Arnaud Desjardins, pour qui on ne peut parvenir à quelque chose dans la vie spirituelle que si on s'astreint à une technique rigoureuse et avec cette continuité, avec cette exigence très, très absolue. Je pense que cette différence entre le monachisme chrétien où certaines techniques ont existé, pensez à les icasmes du XIVe siècle, mais avec beaucoup plus de souplesse et de liberté que dans les monastères orientaux, extrême-orientaux, je pense que cela vient précisément de ce que nous avons une conception totalement autre du salut. Pour nous, le salut est essentiellement l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous avons à nous y préparer, nous avons à l'accueillir dans la foi, nous avons à y coopérer, je regardais tout à l'heure, mais il reste que ce qui est premier, ce qui est primordial, c'est la grâce de Dieu, et il n'est aucune technique, aucun effort, aussi méthodique et aussi précis qu'il soit, qui ne peut, qui puisse obtenir un résultat par lui-même. D'autre part, il faut dire aussi que toutes ces techniques extrême-orientales ont été élaborées avec une expérience profonde et une science tout à fait remarquable de la nature humaine pendant des siècles et peut-être des millénaires, sont donc des techniques très très au point, mais qui sont ordonnées à un but qui est tout à fait différent de celui que nous poursuivons. Car le but du chrétien, c'est la déification de son être par la participation à la vie divine, par le don de l'esprit, et ce à quoi tendent la plupart des sagesses extrême-orientales, c'est un état de non-dualité, n'est-ce pas, d'absorption du moi, enfin plutôt d'expérience de la disparition de la conscience du moi pour une immersion dans un absolu indifférencié. Ce sont des traditions qui ignorent la notion de personne, n'est-ce pas, où le salut n'est pas personnel pour en parler. Et toutes les techniques spirituelles sont des techniques qui doivent permettre de parvenir non pas par un processus intellectuel, mais d'une façon vécue à une expérience de non-dualité, de non-différenciation par rapport à l'absolu. Si on voulait transcrire ça en termes chrétiens, je crois que l'expérience à laquelle on peut parvenir par cette technique, c'est une sorte d'intuition du moi, de l'âme humaine profonde, n'est-ce pas, comme l'image de Dieu. Il y a une sorte de mystique naturelle là, qui est possible, mais qui est d'un autre ordre que la mystique divine, que l'expérience plénière de l'esprit telle que saint Paul et la tradition chrétienne l'enseignent et l'ont expérimenté. C'est évidemment d'un autre ordre. Bien sûr, le Saint-Esprit est libre de ses dons, il reste tout à fait possible que des ascètes hindous ou tibétains ou autres, qui suivent parfaitement leur conscience, puissent accéder à une expérience authentique de l'Esprit. L'Esprit Saint peut se communiquer à des âmes droites et qui adhèrent à toute la part de vérité qu'il a manifestée, mais les techniques extrêmes orientales comme telles n'ont pas cela pour but. Ça peut se produire, je dirais, par une sorte d'économie divine à l'endroit d'hommes qui ignorent tout du christianisme et qui ne peuvent pas le découvrir autrement que par une sorte d'illumination intérieure non explicite, et ceci, nous n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est que toutes les techniques qui peuvent être proposées aujourd'hui dans ce domaine sont d'une inspiration qui n'est pas chrétienne et que d'elles-mêmes, elles tendent vers une expérience spirituelle qui a d'une autre nature que celle que nous propose le Nouveau Testament et la tradition chrétienne. Cependant, si le salut, par conséquent, est avant tout obtenu par la foi dans le Christ, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à coopérer à la grâce, que nous n'ayons pas à consentir dans la foi à cette nouvelle naissance qui est l'œuvre, qui est le fruit du don gratuit de l'Esprit. Et cette coopération à la grâce prendra l'aspect concrètement d'un combat, mais toujours en nous appuyant sur la présence en nous de l'Esprit-Saint, sur la force et la lumière que l'Esprit-Saint met dans nos cœurs, contre un combat contre toutes les passions, ce que la tradition chrétienne appelait les passions, c'est-à-dire la recherche d'un plaisir égoïste, d'une jouissance égoïste qui satisferait, qui renforcerait notre moi non transfiguré. Il ne s'agit pas, comme dans l'ascèse extrême orientale, de faire disparaître le moi, la conscience personnelle, mais il s'agit de passer d'une expérience égoïste, égocentriste du moi à une expérience, je dirais, du moi transfiguré en personne. Du moi, il faut passer de cette conception où le moi se fait centre, ramène tout à lui-même, parce que c'est vraiment l'ego égocentriste, à la à l'expérience de la personne qui garde bien, la personne humaine garde bien sa consistance, son individualité, mais en tant qu'être de communion. Comme dans la Sainte Trinité, les personnes divines sont irréductibles l'une à l'autre, restent des centres absolument inconfusibles, mais d'autre part ont absolument tout en commun. Le Père n'a rien que le Fils ne possède pas, le Saint-Esprit ne possède rien que le Père et le Fils ne possèdent, le Fils n'a rien que l'Esprit-Saint et le Père n'est pas, n'est-ce pas ? Ils ne diffèrent que parce qu'ils sont le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Mais ils n'ont absolument rien de propre chacun. Eh bien, c'est vers cela que ce modèle que nous devons nous orienter. Et le don de l'Esprit-Saint dans nos cœurs a précisément pour effet de faire fondre en nous, si je peux m'exprimer ainsi, de faire fondre en nous tout germe d'individualisme, toute réalisation égocentrique, n'est-ce pas, du moi, pour que nous ne soyons plus, petit à petit, nous ne soyons plus que des personnes gardant toute leur individualité, toute leur consistance personnelle, mais étant entièrement en communion avec Dieu et avec les autres. Et par conséquent, l'Esprit Saint dépose en nous, dès le baptême, un dynamisme, une sorte de loi intérieure de croissance qui va se manifester par une lumière, par des lumières, par des instincts intérieurs, par des attraits nous entraînant dans ce sens. Et tout le problème de l'homme baptisé, c'est d'être au fond travaillé intérieurement par deux instincts. Il reste l'instinct dévié, hérité de la faute d'Adam, qui nous pousse à chercher la satisfaction de notre moi non transfigurée. C'est ce qu'on a appelé la convoitise ou la concupiscence. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le cœur ni les tendances spontanées du cœur, mais c'est la tendance à rechercher à travers cela une satisfaction de ce moi. C'est pas une satisfaction égoïste de ce moi, tendant à l'idolâtrer en quelque sorte, à le fermer par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Et d'autre part, il y a en nous la tendance de l'Esprit Saint, le dynamisme de l'Esprit Saint, qui nous pousse au contraire à trouver notre bonheur, à trouver notre véritable épanouissement personnel dans la communion avec Dieu, la communion avec les autres, et par conséquent dans le dépouillement complet, dans la mort à tout ce qui est repliement égoïste sur soi. Mais ceci n'est pas donné du jour au lendemain. Ce qui est déposé en nous, en germe au baptême, c'est les prémices, n'est-ce pas, la première semence de ce dynamisme de l'esprit, mais il va devoir se développer en nous par le moyen précisément de notre coopération. Seulement, cette coopération n'est pas une œuvre purement humaine, elle est inséparable de l'action de la grâce. C'est une synergie, comme disait Père, c'est-à-dire une coopération constante de notre liberté et de la grâce. Et ce que notre liberté a à faire, c'est simplement de consentir précisément à ce mouvement profond de la grâce en nous. Et par conséquent, ce qui va être l'élément tout à fait fondamental de l'ascèse chrétienne, cela va être ce combat intérieur contre les pensées mauvaises. Combat intérieur qui implique, d'une part, que nous sachions les discerner, c'est-à-dire reconnaître en nous tout ce qui procède du vieil homme, de cet héritage du péché d'Adam qui demeure en nous. Et c'est pourquoi les pères en ont souvent dressé le catalogue et les ont décrites de différentes manières. Le premier qui les fait de façon systématique, c'est d'Évagre le Pontique, qui l'a fait d'ailleurs sur la base de l'enseignement des pères de Cété. Vous savez qu'Évagre avait énuméré ainsi toutes ces pensées mauvaises qui peuvent naître en nous, qui sont l'expression en nous de ce dynamisme mauvais du péché, à savoir la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'amour de l'argent, la mauvaise tristesse, la colère, la sédie, c'est-à-dire le dégoût des choses spirituelles, la vaine gloire et l'orgueil. On peut d'ailleurs énumérer, il y a chez les pères bien d'autres énumérations de ces tendances mauvaises qui sont incluses d'une manière ou d'une autre dans cette liste des vagues qui a donné naissance en Occident beaucoup plus tard par l'intermédiaire de Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire Dialogos, à la liste des péchés capitaux. Seulement chez Évagre et chez les pères, il ne s'agissait pas de péchés capitaux, de liste de péchés commis, mais plutôt d'une liste des tendances mauvaises contre lesquelles il faut combattre et contre lesquelles il faut donc se prémunir. Le point de vue d'Évagre et des pères est plutôt celui du maître spirituel qui met en garde contre les tentations, qui met en garde contre tout ce qui peut détourner l'homme de Dieu avant la faute. Le point de vue de Saint-Gloire-de-Grand et de la morale occidentale étant plutôt celui du moraliste, du confesseur, qui catalogue les péchés une fois commis. Quand on parle de péchés capitaux, c'est de cela qu'il s'agit. Alors en fait, pour les pères, il s'agit d'abord de répertorier, pour pouvoir permettre un discernement, de répertorier les différentes tendances mauvaises, les différentes manières dont se manifeste en nous ce dynamisme du péché, pour que nous puissions le combattre. Donc c'est le point de vue du combat spirituel, et non pas le point de vue du confesseur qui, après coup, catalogue les fautes. Mais il faut, dans le concret, discerner toutes ces tendances mauvaises, et les discerner essentiellement à la lumière de la parole de Dieu. Bien sûr, nous pouvons les discerner aussi à la lumière de notre conscience, car en tout homme, si pécheur qu'il soit, s'il rentre profondément dans son cœur, eh bien, dans ce cœur qui est fait à l'image de Dieu, il découvre en lui quelque chose de ce dynamisme de l'esprit qui est au moins inscrit en creux dans le cœur du pécheur. Et au fond de notre cœur, il y a toujours quelque chose qui condamne le péché, qui le dévoile. Et qui le... Cependant, le propre du péché, surtout s'il y a une habitude de péché, c'est d'aveugler le cœur et de rendre peu sensible ou de pervertir d'une façon ou d'une autre ce témoignage intérieur de la conscience. Et c'est pourquoi on ne peut pas se fier uniquement pour ce discernement des tentations, ce discernement des pensées mauvaises que nous avons à combattre, on ne peut pas se fier uniquement à ce témoignage intérieur de la conscience, à ce que notre cœur ressent. Et vous trouvez parfois des gens profondément installés dans le péché et qui sont persuadés, qui se justifient parfaitement dans leur état et qui vous disent que leur conscience ne leur reproche rien et qu'au contraire, ils croient que ce qu'ils font, que la manière dont ils vivent est finalement selon Dieu. C'est ce que Dieu leur demande dans telle ou telle situation, dans telle ou telle circonstance. Et c'est pourquoi, étant donné l'aveuglement de notre cœur lorsqu'il est encore dominé par le péché, le meilleur moyen de discernement, ce sera de confronter ces pensées, ces mouvements intérieurs qui sont en nous, ces inspirations, à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, telle qu'elle est contenue dans l'Écriture, telle qu'elle est transmise par la tradition de l'Église, telle que l'a comprise le sens commun des fidèles, le sens commun des chrétiens à travers les siècles, et tel qu'un père spirituel peut aussi la monnayer pour nous dans le détail des circonstances de notre vie. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, que nous nous replaçons sous une loi extérieure. En fait, cette parole qui nous est donnée, parole de Dieu écrite dans le Nouveau Testament, parole de Dieu transmise par l'Église, notre Père spirituel, cette parole, en réalité, ne fait que nous révéler ce à quoi tend le dynamisme de l'Esprit inscrit dans notre cœur depuis le baptême. Mais elle nous permet de le discerner, elle nous le révèle, et cette révélation est nécessaire parce que, encore une fois, nous sommes aveuglés par le péché et nous ne pouvons pas, tant que nous n'avons pas déjà progressé dans la vie spirituelle, découvrir avec sécurité en nous cet appel de l'Esprit. Et beaucoup d'illusions demeureraient possibles. Donc le premier moment de la sagesse chrétienne, celui du combat chrétien, pour adhérer à ce dynamisme de l'Esprit, ça va être de bien discerner tout ce qui s'y oppose en nous, toutes les forces du péché, toutes les tendances du péché se manifestant par ses pensées, par ses impulsions, par ses inspirations mauvaises qui naissent en nous, si nous y sommes attentifs, un peu à chaque instant. C'est tout au long de nos vies. Dans le Saint-Vicaire d'Égypte, dans ses homélies spirituelles, compare ce combat intérieur au combat physique, au combat matériel qui peut exister entre les hommes, et il nous dit, eh bien, dans toutes les guerres visibles, dans toutes les guerres entre hommes sur terre, il y a des trêves, il y a des moments où le combat se ralentit ou se cesse tout à fait, pour reprendre un peu plus tard. Tandis que dans ce domaine spirituel, dans le domaine du combat contre les pensées mauvaises suscitées en nous par Satan, qui utilise la trace que la faute d'Adam a laissée dans notre nature, dans ce combat-là, il n'y a aucune trêve, il n'y a aucune relâche, il n'y a aucun armistice. C'est une guerre sans relâche, qui se poursuit sans trêve en nous, et si nous ne nous en rendons pas compte, c'est que nous sommes aveuglés intérieurement, mais si nous sommes vraiment lucides, eh bien nous découvririons que à chaque instant, tout au long de nos journées, nous sommes sans cesse sollicités par le péché, sollicités aussi d'ailleurs par la grâce de l'Esprit, et que nous avons sans cesse à opérer des choix entre ces deux tendances, ces deux esprits qui sont en nous. Ce discernement opéré, donc par le recours à la parole de Dieu, en aucun cas, n'est-ce pas, nous ne pouvons reconnaître comme venant de Dieu quelque chose qui irait contre la parole de Dieu. C'est là le critère absolument fondamental. Quelle que soit notre impression extérieure, quel que soit ce que nous ressentons en nous-mêmes, si une inspiration, si une tendance qui est en nous, si une situation dans laquelle nous nous trouvons est en contradiction avec la parole de Dieu, il n'y a aucune justification de cela qui soit vrai, qui soit valable. Si nous pensons être malgré tout dans la volonté de Dieu, nous sommes dans l'illusion dès lors qu'il y a contradiction avec la parole de Dieu. C'est là le critère le plus fondamental. Et à mesure que nous progressons dans la vie spirituelle, alors, dans cette même mesure, notre conscience intérieure, si vous voulez, s'affine, et nous ressentons profondément, nous-mêmes, le désaccord qu'il y a entre telle et telle inspiration, telle et telle situation, et Dieu, ce qui est selon la volonté de Dieu. Et ceci n'est pas donné au départ. Il y a une part de discernement extérieur qui est indispensable. Donc ce discernement opéré, il faut évidemment refuser la tentation, ne pas y consentir, rompre avec ce dynamisme du péché. Et cela, justement, en choisissant ce que nous révèle la parole de Dieu, en agissant conformément à la parole de Dieu. Ceci, non pas en prenant appui sur ses propres forces, ce qui serait purement et simplement présomption, ce qui serait retombé dans cette conception judaïque dont je parlais tout en commençant, mais en demandant la grâce de l'Esprit et en consentant à cette grâce. Il est normal que, dans la tentation, nous nous sentions totalement démunis, totalement faibles. C'est une expérience nécessaire. Et si Dieu permet justement que nous soyons Dieu, c'est pour que nous réalisions notre totale impuissance personnelle. Nous ne pouvons rien faire dans le domaine du salut, dans le domaine de la sanctification, sans être soulevés par ces ailes de l'Esprit, par ce sens intime et ce goût intime du bien, de ce qui est selon Dieu, que l'Esprit Saint éveille en nous. Par conséquent, le seul moyen de lutter contre le péché, contre la tentation, c'est de découvrir dans notre cœur l'attrait inverse, l'attrait pour le bien, l'attrait pour tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu que le Saint-Esprit dépose. Et ce don de la grâce nous est toujours offert, mais nous ne pouvons l'obtenir qu'en le demandant par la prière. Et c'est pourquoi la prière sera sans aucun doute le moyen fondamental dans la lutte, dans le combat spirituel que nous devons mener pour que notre vie devienne de plus en plus conforme au dynamisme initial reçu au baptême, devienne de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Seulement, la prière ne sera pas toujours exaucée immédiatement, et Dieu peut, dans sa sagesse, dans son économie, comme disent les pères, juger nécessaire de nous laisser assez longtemps sans aide sensible, sans aide extérieure, de nous laisser dans notre péché, en quelque sorte, pour que nous prenions de plus en plus conscience de notre pauvreté, de notre faiblesse et de notre besoin de lui. L'important, à ce moment-là, c'est de ne pas se lasser, de recommencer toujours l'effort, de recommencer toujours la prière, la supplication, certain qu'au moment que Dieu jugera opportun, la grâce nous sera donnée, que l'aide divine nous sera donnée et que nous pourrons, à ce moment-là, triompher de la tendance mauvaise. La prière suffit-elle? Non, car il faut évidemment aussi, toujours en s'appuyant sur la grâce, et sur déjà la grâce même peu perceptible mais réelle obtenue par la prière, refuser la tentation, refuser l'impulsion mauvaise, rompre avec toutes les tendances du péché qui sont en nous. Inévitablement, ce combat sera fait de succès et de revers, il ne faut pas s'en étonner, c'est tout à fait normal, mais il faut y persévérer absolument sans relâche. Et par conséquent, dès que l'on perçoit en soi-même, n'est-ce pas, une tendance mauvaise, et bien s'appuyant sur la prière, mais aussi par le jeu de notre liberté, de notre consentement intérieur, savoir rompre, savoir refuser, savoir écarter la tentation. Les pratiques ascétiques chrétiennes ne sont pas des exploits que nous prétendrions accomplir par nos propres forces et dont nous attendrions des résultats dépendant de notre uniquement de notre liberté. Ce ne sont pas des techniques qui nous permettrait d'accéder à une certaine intégration spirituelle, qui nous permettrait par elle-même d'obtenir des résultats dans le domaine spirituel. L'ascèse chrétienne, les pratiques corporelles d'ascèse qui mettent en jeu tout notre être, sont simplement le langage que nous devons employer pour exprimer par notre corps, par tout notre être, donc par notre corps aussi, l'humilité, la foi, la charité. Il y a un apophtègme que j'ai déjà cité ici, une parole des Pères du désert, qui est très significative à cet égard, qui est profondément biblique dans son inspiration. Un disciple demande à un père à quoi servent nos jeûnes, nos veilles, toutes nos pratiques d'ascèse. Et l'ancien lui répond, elles humilient notre âme. Où le but n'est pas du tout de détruire le corps, ni d'amoindrir le corps, ce n'est pas une ascèse qui soit le moins du monde d'inspiration manichéenne. Le but de l'ascèse, de toutes les pratiques d'ascèse chrétienne, c'est au fond d'exprimer avec tout notre être, pour que nous soyons, que ce ne soit pas quelque chose de purement cérébral, de purement intellectuel, mais quelque chose de réellement vécu, d'exprimer l'humilité, d'exprimer la foi, d'exprimer la, notre amour de Dieu, notre amour du prochain. Et toujours en prenant appui sur la grâce de l'Esprit, sur l'instinct intérieur de l'Esprit Saint, inscrit en nous par le baptême et par le don de Dieu qui répond à chacune de nos prières, à chacune de nos demandes. En quoi consistent ces aspects extérieurs de l'ascèse chrétienne, ces pratiques que nous avons à accomplir? La tradition chrétienne les ramène essentiellement aux suivantes. Le jeûne, la prière nocturne, ce qu'on appelle l'éveil dans la tradition chrétienne, et l'aumône. Pour ce qui est du jeûne, c'est une pratique qui est d'origine essentiellement biblique. Et dans l'Ancien Testament, le jeûne apparaît beaucoup moins, c'est très significatif, il apparaît beaucoup moins comme une prescription légale, une prescription de la loi, que comme un geste symbolique, accompagnant habituellement la prière quand elle est instante. Et c'est très significatif parce que, de cette manière, le jeûne apparaît dès l'Ancien Testament moins comme une réalité de l'Ancienne Alliance que comme quelque chose qui annonce déjà l'aspect plus intérieur du Nouveau Testament. Il y a à travers tout l'Ancien Testament une sorte de dialectique, si on peut dire. L'Ancien Testament est déjà comme travaillé de l'intérieur par le Nouveau. C'est normal, c'est bien compréhensible, puisque tout l'Ancien Testament nous achemine vers le Christ. Or, le jeûne, précisément, à la différence des pratiques cultuelles de l'Ancien Testament, le jeûne apparaît comme quelque chose de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus lié à la prière personnelle, individuelle, dans l'Ancien Testament. Il y a quelques jeûnes qui étaient prescrits par la loi, mais ce n'est pas l'aspect dominant. Et le jeûne apparaît plutôt dans l'Ancien Testament comme un geste assez spontané qui accompagne la prière la plus personnelle. À propos du jeûne, je vous lis quelques lignes du vocabulaire de théologie biblique qui a été publié aux éditions du Cerf il y a quelques années, et qui sont assez intéressants. Les Occidentaux d'aujourd'hui, même chrétiens, ne prisent guère le jeûne, qui consiste à se priver de toute nourriture et de toute boisson pendant un ou même plusieurs jours, d'un coucher de soleil à l'autre. Mais le jeûne n'est pas, dans la tradition chrétienne, n'a pas souvent revêtu cette forme d'un jeûne total, sauf à des moments tout à fait déterminés, mais plutôt d'une abstinence pendant un temps donné, une partie de la journée, n'est-ce pas, et abstinence de certains aliments, enfin peu importe. S'ils apprécient la modération dans le boire et le manger, le jeûne leur paraît dangereux pour la santé, et ils n'en aperçoivent guère l'utilité spirituelle. Cette attitude est à l'opposé de celle que les historiens des religions rencontrent un peu partout. Pour des motifs d'ascèse, de purification, de deuil, de supplication, le jeûne occupe une place importante dans tous les rites religieux. En islam, par exemple, c'est le moyen par excellence de reconnaître la transcendance divine. La Bible, qui fonde ici l'attitude de l'Église, se rencontre sur ce point avec tous les autres courants religieux. mais elle précise le sens du jeûne et en règle la pratique. Avec la prière et l'aumône, elle en fait l'un des actes essentiels qui traduisent devant Dieu l'humilité, l'espérance et l'amour de l'homme. Ceci me paraît tout à fait juste. Le jeûne est un langage de l'homme. C'est un langage, c'est l'une des pièces du vocabulaire religieux, spirituel de l'homme. Et il peut revêtir une signification différente dans les différentes religions. Il n'y a pas à assimiler le jeûne chrétien au jeûne musulman ou au jeûne d'autres religions. Mais c'est un langage qui est commun à toute l'humanité religieuse et qui, dans le christianisme, prend sa signification propre. Mais un langage qui est indispensable, toute la tradition chrétienne. Et l'auteur poursuit ici, « L'homme étant âme et cœur, il ne servirait de rien d'imaginer une religion purement spirituelle. » En français, le mot « spirituel » est très équivoque. Le mot « spirituel », tel qu'il est entendu ici, signifie « immatériel, désincarné ». Et quand le Christ nous dit qu'il faut servir le Père en esprit, en vérité, eh bien, il ne veut pas dire du tout qu'il faille le servir d'une manière désincarnée. Ce qu'il faut, c'est le servir dans l'Esprit Saint, animé intérieurement par l'Esprit Saint. Il ne faut pas que notre culte soit un culte judaïque, extérieur, qui soit uniquement le fruit de la volonté et de la décision humaine, mais qu'il soit soutenu, animé intérieurement par l'Esprit Saint. Donc, de ce point de vue-là, le culte chrétien, comme le jeûne chrétien, doit être proprement et uniquement spirituel. Et spirituel ne veut surtout pas dire désincarné. Et il y a des comportements corporels qui sont spirituels dans la mesure où ils sont suscités, soutenus intérieurement par cette notion de l'esprit. Et c'est bien le cas ici du jeûne. Et l'auteur de ce texte le voit très bien. Pour s'engager, l'âme a besoin des actes et des attitudes du corps. L'important ici, n'est-ce pas, est que nous ne nous contentions pas de bonnes intentions, d'idées, de quelque chose qui soit purement cérébral et intellectuel. Pour qu'une attitude spirituelle soit réelle chez l'homme, il faut qu'elle s'incarne aussi dans un comportement corporel. Ceci est extrêmement important. Même l'adoration, par exemple, l'adoration devant Dieu, eh bien, ne veut pas être, normalement, pour l'homme, simplement un sentiment intérieur. Il faut que ce soit quelque chose qui se traduise par tout l'être, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que le mot « adorer », n'est-ce pas, dans toute la religion chrétienne, est identique, enfin, c'est le même mot en grec, c'est le même mot en latin, c'est le même mot que « se prosterner ». Adorer, c'est se prosterner, c'est faire une métanie, n'est-ce pas ? C'est avoir une attitude qui engage notre cœur devant Dieu. De même, la pénitence, la métanoïa, précisément, n'est pas seulement quelque chose d'intérieur, mais c'est une attitude de repentir, d'humilité devant Dieu, qui s'exprimera aussi par une prostration, par un agenouillement. Parce que nous sommes corps et âme indissolublement, et une attitude n'est réelle pour nous que si elle s'incarne dans tout notre être. Et c'est la raison pour laquelle le jeûne est si important comme langage de notre vie spirituelle. Le jeûne, toujours accompagné de prières suppliantes, sert à traduire l'humilité devant Dieu. Jeûner, dans l'Ancien Testament, équivaut à humilier son âme. Le jeûne n'est donc pas un exploit ascétique, il ne vise pas à procurer quelque état d'exaltation psychologique ou religieuse. De telles utilisations sont attestées dans l'histoire des religions. Mais en contexte biblique, quand un homme s'abstient de manger, par exemple toute une journée, alors qu'il tient la nourriture pour un don de Dieu, et non pas pour quelque chose de mauvais, pas plus que le corps, cette privation est un geste religieux dont il faut comprendre exactement les motifs. On se tourne vers le Seigneur par le jeûne dans une attitude de dépendance et d'abandon total. Et nous voyons des personnages de l'Écriture qui, avant d'entreprendre une tâche difficile, pour implorer le pardon d'une faute, quelquefois pour prendre le deuil à l'occasion d'un malheur domestique ou national, pour obtenir la cessation d'une calamité, quelquefois pour s'ouvrir à la lumière divine, pour obtenir intérieurement l'illumination de Dieu, par exemple dans Daniel 10-12, pour obtenir la grâce nécessaire à l'accomplissement d'une mission particulière, pour se préparer à la rencontre de Dieu, nous voyons dans tous ces cas des personnages bibliques recourir au jeûne. Et ceci nous révèle très bien la signification proprement biblique déjà du jeûne et qui a été reprise très naturellement en climat chrétien. Il y a un très beau texte de saint Isaac le Syrien sur le jeûne. Je voulais citer il y a peut-être 3 ans, mais j'y reviens volontiers. Dès que cette arme apparaît dans la main d'un homme, immédiatement la crainte s'abat sur Satan, le chef de la rébellion. Et aussitôt son esprit frémit au souvenir de cette première défaite qu'il avait subie au désert lors de la tentation du Christ. C'est très, très remarquable que le Christ ait affronté Satan au désert dès le seuil de début de son ministère public par le jeûne, précisément. Sa force est brisée quand il voit l'arme que notre chef de guerre a placée dans nos mains. Dès que Satan voit qu'un homme porte cette arme, il comprend que celui-là est prêt pour la lutte. Y a-t-il arme plus puissante que celle-là? Qu'est-ce qui donnera confiance à notre cœur dans sa lutte contre les ennemis, plus que ne le fait la faim endurée pour le Christ? Dans la mesure même où le corps de l'homme est fatigué et abattu, quand les armées de Satan l'assaillent, son cœur est fortifié par la confiance. Et celui qui demeure constamment dans cet état sera constamment brûlé par le zèle comme par le feu. C'est un texte qui évidemment s'adresse à des moines, mais comme je vous disais tout à l'heure, la pratique du jeûne et toutes ces pratiques ascétiques doivent être réglées par le discernement des esprits, par la discrétion, par la mesure, qui sera différente pour chacun, mais il y a là tout de même un principe général et fondamental de vie chrétienne. À côté du jeûne, la tradition chrétienne, toujours dans le prolongement d'ailleurs de l'enseignement de l'Écriture, fait une place privilégiée aux veilles, c'est-à-dire à la prière nocturne, au fait de prier dans la nuit. C'est une chose aussi dont nous avons à peu près autant perdu le sens que celui du jeûne. Là encore, écoutons saint Isaac le Syrien. Il prend comme point de départ les textes de l'Évangile et de saint Paul qui invitent à la vigilance, mais n'oublions pas que le mot vigilance signifie veiller, être en éveil, n'est-ce pas, ne pas dormir. Donc le Sauveur nous invite instamment en divers endroits cette vigilance par sa vivante parole. Veillez et priez en tout temps. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et encore, priez sans cesse. Il ne s'est pas contenté de nous avertir seulement par ses paroles. Ici, comme pour le jeûne, nous avons l'exemple même du Seigneur. Il nous a donné aussi l'exemple en sa personne, en honorant la pratique de la prière au-dessus de toute autre chose. C'est pourquoi il s'isolait constamment pour la prière, et cela non pas d'une façon arbitraire, mais en choisissant pourtant la nuit et pour lieu le désert, afin que nous aussi, évitant les foules et le tumulte, nous devenions capables de prier dans la solitude. De même, toutes les révélations dont les saints ont bénéficié sur des sujets divers, que ce soit pour l'instruction personnelle ou pour l'utilité de tous, se sont généralement produites durant la nuit et au moment de la prière. Et il dit un peu plus loin, « La prière qui est offerte au temps de la nuit possède un grand pouvoir, plus que celle qui est offerte durant le jour. C'est pourquoi tous les saints ont eu l'habitude de prier durant la nuit, combattant l'assoupissement du corps et la douceur du sommeil et rejetant leur nature corporelle. Le prophète disait lui aussi, « Je me suis fatigué à gémir, chaque nuit je baigne ma couche de mes larmes », tandis qu'il soupirait du fond du cœur dans une prière passionnée. Et ailleurs, « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer à cause de tes jugements, toi le juste. Psaume 118. Pour chacune des requêtes que les saints voulaient adresser à Dieu avec force, ils s'armaient de la prière pendant la nuit et aussitôt ils recevaient ce qu'ils demandaient. Beaucoup plus près de nous, il est un auteur français du début du siècle, qui a retrouvé ce sens de la nuit et de la prière nocturne. C'est Charles Péguy, qui, sur tant de points, simplement, je crois, par une docilité intérieure au Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas tellement, il ne pouvait pas avoir tellement lu les vers lui-même, a, comme spontanément, retrouvé beaucoup une intuition profonde de la grande tradition chrétienne. Et il y a chez Péguy des choses admirables sur la nuit, comme il y a des textes admirables sur l'enfant, sur l'enfant spirituel. « Ô nuit qui pense toutes les blessures, au puits de Samaritaine, toi qui tires du puits le plus profond la prière la plus profonde. Au puits de Samaritaine, toi qui tires du puits le plus profond la prière la plus profonde. » Vous allez voir la suite. C'est Dieu qui parle ici. Ô ma nuit étoilée, je t'ai créé la première. Toi qui endors, toi qui ensevelis déjà dans une ombre éternelle toutes mes créatures. Ô ma belle nuit, je t'ai créé la première, et presque avant la première, et presque avant la première, silencieuse, au long voile, toi par qui descends sur la terre un avant-goût, toi qui répands de tes mains, toi qui verses sur terre une première paix, avant-coureur de la paix éternelle. Toi qui répares, toi qui nourris, toi qui reposes, au silence de l'ombre. Un tel silence régnait avant la création de l'inquiétude, un tel silence régnera, mais un silence de lumière, quand toute cette inquiétude sera consommée. Ainsi, ma fille, tu es ancienne et tu es en retard. Car dans ce règne d'inquiétude, tu rappelles, tu commémores, tu rétablis presque, tu fais presque recommencer la quiétude antérieure quand mon esprit planait sur les eaux. Mais aussi, ma fille étoilée, ma fille au manteau sombre, tu es très en avance, tu es très précoce, car tu annonces, car tu représentes, car tu fais presque commencer d'avance tous les soirs ma grande quiétude de lumière éternelle. Voilà comment Péguy comprenait la nuit, voyez-vous. C'est une vision extrêmement profonde, certainement, et qui montre dans la nuit une sorte de sacrement naturel, ça qui à la fois évoque le paradis et la création telle qu'elle sortit des mains de Dieu, et qui en même temps anticipe cette quiétude éternelle de la fin des temps. Et voilà pourquoi c'est dans la nuit, comme il le disait dans le texte que je citais en commençant, que du puits le plus profond, n'est-ce pas, on peut la nuit faire jaillir la prière la plus profonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout chrétien passe toutes ses nuits à prier, n'est-ce pas, encore une fois, il faut que tout cela soit mesuré, régi par la discrétion. Mais je pense qu'il est bon de savoir parfois profiter de ce sacrement de la nuit, si je puis dire, pour plonger, pour que notre prière puisse vraiment plonger dans cette profondeur, que notre prière puisse retrouver cette source de quiétude, cette source de paix très profonde qu'on ne peut trouver que dans la prière nocturne. Mais, encore une fois, ceci ne peut pas être une règle, n'est-ce pas ? Il n'y a pas dans ce domaine de règle à quoi en parler, et c'est une chose à découvrir soi-même et à appliquer avec mesure. Il y a encore une fois, n'est-ce pas, toutes ces pratiques ne sont jamais quelque chose d'absolu. Elles n'ont jamais pour but de nous prouver que nous sommes capables de quelque chose, de prouver aux autres que nous sommes capables de quelque chose. Il s'agit simplement d'exprimer quelque chose de vrai, quelque chose qui soit vrai pour nous. Et par conséquent, dans la mesure où c'est forcé, dans la mesure où c'est tendu, dans la mesure où ceci, tout cela ne nous procure pas la paix, eh bien, toutes ces pratiques d'ascèse perdent toute signification. Par conséquent, il faut les appliquer avec un grand discernement, avec une grande mesure, mais d'autre part, il est important d'avoir le sens et de savoir leur faire à certains moments, à certaines périodes, quand c'est possible, dans la mesure où c'est possible, une place réelle, efficace dans notre vie. La troisième pratique recommandée par la tradition chrétienne, c'est l'aumône. L'aumône, dans la mesure où on possède les biens de ce monde, eh bien, elle consistera à secourir le prochain au moyen de ses biens, mais plus largement, l'aumône consiste dans toutes les manières par lesquelles on peut porter un secours au prochain avec ce qu'on possède. Si on n'a pas d'argent, eh bien, cela permettrait simplement de consacrer son temps, de consacrer son attention, de consacrer sa peine d'une manière ou d'une autre au service du prochain. Et il n'y a pas de doute qu'il y a là, dans l'Évangile en particulier, dans le Nouveau Testament, un devoir absolument fondamental, un devoir radical pour le chrétien. Et pour les fidèles, pour les laïcs en particulier, dans toute la tradition chrétienne, le jeûne est toujours inséparable de l'aumône. Je ne dis pas que le jeûne a seulement pour but, loin de là, de permettre d'économiser sur la nourriture pour faire l'aumône, mais le jeûne, en fait, demande toujours à être complété d'une manière ou d'une autre par l'aumône, par ce souci du prochain, précisément pour lui donner, pour donner à notre vie spirituelle toutes ces dimensions chrétiennes, avec cette ouverture vers le prochain qui est tellement fondamentale, puisque c'est pour une part à travers le prochain que nous rejoignons le Christ, nous pouvons véritablement servir le Christ. Mais ce qui est essentiel dans l'aumône, c'est l'attitude intérieure qu'elle incarne, ce n'est pas son efficacité matérielle. Et dans l'Évangile, l'obole de la veuve qui avait donné de son nécessaire est loué beaucoup plus que l'offrande infiniment plus généreuse matériellement des riches, mais qui se privait beaucoup moins. Donc ce qui est visé, ce n'est pas tellement l'efficacité matérielle, mais c'est l'attitude intérieure qui s'incarne dans ce don. Et ce qui montre bien que l'aumône n'est pas une simple pratique de philanthropie, n'est-ce pas, c'est l'épisode de Marie qui répand le parfum précieux sur les pieds du Seigneur. L'attitude rationaliste est celle de Judas, n'est-ce pas, on a pu vendre ce parfum bien cher et en donner le profit aux pauvres. C'est le point de vue de l'efficacité, c'est le point de vue du rendement. Or, ce qui est important aux yeux du Seigneur, c'est l'attitude intérieure exprimée. Bon, quand il s'agit de la veuve qui jette son obole dans le temple, bien cet obole exprimait une attitude intérieure de renoncement total à elle-même, de don au prochain, de don au Seigneur aussi, puisqu'elle est donnée dans le temple. Et l'attitude de Marie, lorsqu'elle répand le parfum au pied du Christ, exprime à la perfection cet amour sans partage, ce don sans partage d'elle-même de tout ce qu'elle possède au Christ. C'est cela qui doit être l'âme de l'aumône chrétienne. Mais l'aumône chrétienne a aussi un sens de communion avec les autres et notamment de communion entre les églises. Ceci ressort particulièrement de un certain nombre de passages des épîtres pauliniennes qui font allusion à la collecte que saint Paul a fait parmi les églises issues de la gentilité, parmi les païens convertis, pour l'église de Jérusalem qui était dans le besoin. Et pour saint Paul, ce geste qui demandait aux chrétiens convertis du paganisme n'était pas simplement un geste de philanthropie, de charité, mais c'était un véritable signe de communion dans l'église, de mise en commun des biens en quelque sorte, comme expression de la communion des églises locales dans l'église du Christ. Et c'est une des significations de l'aumône. Et de ce point de vue-là, il est très intéressant que d'une église locale à l'autre, n'est-ce pas, des échanges puissent se créer, une aide puisse se créer comme signe concret de communion. Souvent, on n'y pense pas beaucoup, n'est-ce pas, et dans la tradition ancienne de l'église, on trouve souvent présent ce geste d'une église qui vient en aide, même matériellement, à une autre église. Où les pères du désert, qui pouvaient sembler tellement individualistes dans leur ascèse, avaient ce souci d'économiser sur le travail qu'ils faisaient quelquefois de façon saisonnière au moment des moissons ou autres, pour pouvoir envoyer des subsides aux chrétiens persécutés, aux chrétiens qui étaient en difficulté. Saint Cassien le mentionne par exemple. Et là encore, c'est certainement un geste de le mot solidarité chrétienne convient très mal, c'est plutôt de communion concrète entre les chrétiens. bien sûr, l'aumône peut être faite à tout homme, et tout homme, d'une certaine manière, est le Christ, n'est-ce pas ? On peut, dès lors que l'on donne à un pauvre, quel qu'il soit, mais s'il n'est pas chrétien, c'est donné au Christ. Mais il est sûr que pour toute la tradition chrétienne, c'est avant tout le don aux pauvres de l'Église qui est l'aumône chrétienne par excellence, parce qu'elle est l'expression de cette communion dans l'Esprit Saint qui ne relie que les membres de l'Église. Vous donnez aux pauvres en dehors de l'appartenance à l'Église, c'est bien, mais c'est resté sur un terrain un peu humain, si vous voulez. C'est ainsi de l'amour de Dieu pour tout homme, et ça a une pleine valeur à ce stade. Mais l'aumône faite à l'intérieur de l'Église, d'une église pauvre à une église riche, d'une église riche à une église pauvre, d'un chrétien plus fortuné à un groupe de chrétiens moins fortunés, eh bien, cela exprime, alors de façon sensible, par un geste et qui engage tout l'être, encore une fois, la communion profonde dans l'esprit, la communauté, je dirais la communion des saints, véritablement. L'aumône entre chrétiens est un signe, un sacrement de la communion des saints. Et ceci est très bien souligné par la Bible. Donc voilà les pratiques ascétiques, si vous voulez, les plus fondamentales mentionnées par la tradition chrétienne. Le jeûne, la prière nocturne, l'éveil, et puis l'aumône. J'y ajouterai quelque chose qui n'est pas strictement une pratique ascétique, mais qui cependant, d'une certaine façon, les résume et pourrait presque en dispenser dans une certaine mesure. C'est l'obéissance et l'abandon à Dieu. L'obéissance au prochain, et puis l'abandon à Dieu à travers les événements et toutes les circonstances de la vie. Quand je dis que cela pourrait remplacer les autres pratiques ascétiques, mon expression est un peu forcée, parce qu'en réalité, nous sommes en présence d'un véritable organisme de la vie spirituelle, et sauf impossibilité, motivée par la santé, par une circonstance quelconque, il faut faire une place dans sa vie à chaque élément de cet organisme. Tous répondent à une fin particulière, traduisent sur un mode différent des réalités chrétiennes fondamentales, et qu'on ne peut pas faire bon marché de l'une ou de l'autre. Mais il est sûr que cette obéissance chrétienne et cet abandon chrétien à la volonté de Dieu est probablement l'élément le plus fondamental tout de même dans la cesse chrétienne. Obéissance au prochain. Il y a un passage du Chemin des Ascètes de Tito Colliander que je vous ai déjà cité plusieurs fois, je crois, à propos de différentes choses, qui me paraît être vraiment très important. Mais là, dans son Chemin des Ascètes, tout un chapitre sur l'obéissance. Il parle d'abord du jeûne. Cela peut paraître assez curieux d'en parler pour l'obéissance, mais c'est justement pour manifester un aspect du jeûne sur lequel je n'ai pas incité précédemment. Mais le jeûne, le respect des jeûnes fixés par l'Église, est une façon d'obéir à l'Église, d'obéir à la tradition chrétienne, d'être en communion avec ce que les chrétiens, à travers le temps, à travers l'espace, ont ressenti comme une exigence de leur vie spirituelle. Si l'Église a prescrit des temps de jeûne, des périodes de jeûne, une manière de jeûner, ce n'est pas d'une façon gratuite, mais c'est parce que l'ensemble des chrétiens, à travers les siècles, ont ressenti cette manière de jeûner comme une exigence intérieure de l'Esprit-Saint. Et le fait de pratiquer le jeûne tel qu'il est prescrit par l'Église est une manière d'abandonner notre jugement propre, nos conceptions propres, notre individualisme, pour entrer dans la tradition d'Église, pour entrer en communion avec la pensée, avec l'expérience spirituelle des chrétiens à travers tous les temps. Il ne faut pas du tout concevoir les canons concernant le jeûne comme des règles extérieures, judaïques, n'est-ce pas ? Mais bien au contraire, comme une manière de répondre à quelque chose que l'Esprit-Saint a suscité dans l'Église à travers les siècles, et qui a été ressenti de façon unanime par les chrétiens. Il faut l'appliquer avec discernement, là encore, selon les possibilités de chacun, mais le principe est tout à fait fondamental. Donc, le jeûne est une manière d'obéir, mais il y a d'autres manières d'obéir pour le chrétien. Et Tito Colliander écrit ceci. « la plus grande offrande que nous puissions présenter au Seigneur, c'est nous-mêmes. Et nous ne pouvons le faire qu'en lui livrant notre volonté. C'est par là que l'obéissance est si fondamentale pour la vie spirituelle du chrétien. Cela, nous l'apprenons par l'obéissance. Et nous apprenons à obéir par la pratique. La meilleure manière de pratiquer l'obéissance est celle que l'Église nous fournit en prescrivant des jours et des périodes de jeûne. Donc, ce que je viens de vous dire. À côté du jeûne, nous avons d'autres maîtres à qui nous devons obéir. Nous les rencontrons à chaque pas, dans le détail de notre vie quotidienne. Il suffit que nous sachions reconnaître leur voix. Votre femme vous demande de prendre votre imperméable. Faites comme elle le désire et vous pratiquerez l'obéissance. Un de vos camarades de travail vous demande de faire un bout de chemin avec lui. Accompagnez-le et vous pratiquerez l'obéissance. Vous sentez qu'un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on lui tienne compagnie. Faites-le autant que vous le pouvez et vous pratiquerez l'obéissance. Un novice dans son monastère n'a pas plus d'occasion de pratiquer l'obéissance que vous dans votre maison. Et vous en trouverez autant à votre travail ou dans vos rapports avec vos voisins. C'est une chose extrêmement concrète et qui nous fait atteindre quelque chose de très, très profond en matière de spiritualité. Il poursuit. L'obéissance ouvre bien des barrières. Vous parviendrez à la liberté et à la paix dans la mesure où votre cœur pratiquera la non-résistance. Montrez-vous obéissant et des haies d'épines s'ouvriront devant vous. Alors, l'amour aura de la place pour se dilater. Par l'obéissance, ainsi comprise, où il ne s'agit pas d'une obéissance proprement monastique, par l'obéissance, vous détruirez votre orgueil, votre esprit de contradiction, votre prétendue sagesse et votre entêtement qui vous emprisonne dans une épaisse carapace. L'obéissance ainsi comprise, c'est ce souci de ne pas imposer sa volonté, de ne pas imposer ses goûts, ses préférences, dans toutes les, chaque fois qu'une valeur supérieure n'est pas en cause, cette facilité à laquelle spontanément nous cédons à la volonté des autres, tout cela donc détruit notre orgueil, notre esprit de contradiction, notre prétendue sagesse et notre entêtement. Tant que vous vous recroquevillerez dans cette carapace, vous ne pourrez rencontrer le Dieu d'amour et de liberté. Prenez donc l'habitude de vous réjouir quand une occasion d'obéir se présente. Il est tout à fait superflu de chercher à en créer. Vous pourriez alors tomber dans une servilité artificielle et vous égarer en vous complaisant dans votre propre vertu. Soyez-en sûr, vous trouverez autant d'occasions d'obéir qu'il vous sera nécessaire et ce seront exactement celles dont vous avez besoin. Si vous remarquez que vous avez laissé s'échapper une occasion, reprochez-vous cette négligence, vous avez agi comme un marin qui ne profite pas d'un vent favorable. Cette image est très belle. Mais nous avons encore l'occasion aussi de pratiquer cet esprit d'obéissance, non plus à l'égard du prochain, à l'égard des personnes, mais à l'égard des événements. En ce sens que toute chose est conduite par Dieu, et pour reprendre une expression de Léon Blois, qui est un peu comme Peggy, était assez proche d'une conception orthodoxe des choses à beaucoup d'égards. Léon Blois disait « Ce que Dieu permet est aussi adorable que ce qu'il veut ». Je voulais dire par là qu'il y a des choses que Dieu veut positivement, qui sont un bien en soi et que Dieu veut positivement, mais il y a aussi toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes en elles-mêmes, si vous voulez, intrinsèquement, mais que Dieu permet, à commencer par les tentations, par l'action du démon dans le monde. Et si Dieu le permet, c'est parce que, à travers cela, il peut encore accomplir son dessein de salut, si nous entrons dans ce dessein. Et par conséquent, tout ce qui, dans les événements, qu'il s'agisse d'échecs, de maladies, de contrariétés de toutes sortes, si nous savons discerner quelque chose qui est voulu ou permis par Dieu, qui par conséquent est d'une certaine manière une parole de Dieu, si nous savons qu'à travers cela, une énergie divine est à l'œuvre dans le monde pour accomplir son dessein de salut, si nous le reconnaissons, si nous y adhérons, si nous l'acceptons, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons être transfigurés par tous ces événements. et par toutes ses contrariétés. Il suffit donc de le discerner dans la foi, de savoir reconnaître là cette action de Dieu, cette parole de Dieu, de l'accepter avec soumission, en rejetant toute pensée de révolte, tout mouvement de révolte, en tâchant même d'aimer cette volonté de Dieu qui nous arrache à notre égoïsme, à notre repliement sur nous-mêmes, à notre sagesse, parce que bien souvent, ces événements paraissent, humainement parlant, contredire à toute sagesse, à toute à l'encontre de toute efficacité humaine. À ce moment-là, il y a également là une forme d'obéissance à la volonté de Dieu qui peut être extrêmement féconde. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le fatalisme, c'est-à-dire ne pas simplement avoir l'étude de laisser faire. Quand les choses dépendent de nous, nous avons le devoir de faire ce qui nous est possible pour qu'un résultat bon soit obtenu. Il ne s'agit pas de renoncer à la compétence humaine, il ne s'agit pas de renoncer à certaine sagesse humaine lorsqu'elle est de mise, lorsqu'elle peut s'appliquer. Mais quand des événements ne dépendent pas de nous, ça peut paraître un peu stoïcien si vous voulez, mais c'est une part de stoïcisme que les pères ont assumé et qui peut être entendu de façon profondément chrétienne, tout ce qui ne dépend pas de nous est une réelle manifestation de la volonté de Dieu, et en l'acceptant, en nous soumettant, eh bien, nous pouvons permettre à l'action de Dieu, à l'énergie divine, d'œuvrer en nous et dans le monde, et d'une façon qui sera souvent beaucoup plus fructueuse et beaucoup plus efficace que si nous nous cabrions contre cette volonté de Dieu ainsi manifestée, pour essayer de faire le bien par nos propres moyens, par nos propres forces. C'est une tentation que nous avons sans cesse, n'est-ce pas, de déplorer tout ce qui paraît contrarier la conception que nous avons du bien, de l'œuvre de Dieu, et en fait, dans la mesure où les choses ne dépendent pas de nous, il y a une manière de les accepter dans l'amour, dans l'amour du prochain, sans acheter de révolte, d'agressivité envers qui que ce soit et quoi que ce soit, qui permet réellement à l'action de Dieu de s'opérer. Mais par des voies qui ne sont pas du tout celles des hommes. Et il ne faut jamais oublier que le Seigneur a accompli son dessein de salut par la croix, qui est bien l'échec suprême sur le plan proprement humain, tout cela ne fait que rendre présent dans nos vies justement le mystère de la croix. Ce n'est pas par les voies de la sagesse humaine que le dessein de Dieu s'accomplit, que ce soit en nous, en chacun de nous, que ce soit dans le monde. Pour prendre un exemple très concret, n'est-ce pas, il est certain que dans l'Église, bon, beaucoup de choses peuvent nous sembler ne pas aller, n'est-ce pas, que beaucoup de choses peuvent paraître déplorables, compromettre le règne de Dieu, compromettre le succès, la réussite terrestre de l'Église. Nous avons le devoir, en ce qui nous concerne, d'essayer d'y remédier dans la mesure où cela nous est possible à notre rang, en restant à notre place et sans créer de tension et de crispation. Mais dans toute la mesure où nous ne pouvons rien faire, où il ne convient pas que nous fassions quoi que ce soit parce que nous n'avons pas à imposer notre volonté, nos désirs et nos préférences aux autres, eh bien à ce moment-là, cette soumission, cette acceptation de la volonté de Dieu sera le moyen le plus efficace de réaliser le dessein du salut de Dieu, et en nous, et dans l'Église, et dans le monde. Tout ça n'est pas très construit, si vous voulez, parce qu'il y aurait un monde de choses à dire à propos de la sagesse chrétienne. Je terminerai simplement en lisant quelques lignes au sujet de l'humilité. Quelques lignes d'abord de l'abbé Isaïe qui résume finalement toute la vie spirituelle dans l'humilité. L'humilité, c'est se considérer pécheur et ne faisant rien de bon devant Dieu. La 16, sans l'humilité, ne signifierait absolument rien. L'œuvre de l'humilité, c'est le silence, ne s'estimer soi-même en rien, ne pas aimer contester, la soumission, diriger son regard vers la terre, avoir la mort devant les yeux, se garder du mensonge, ne pas tenir de conversation vaine, ne pas contredire un supérieur, ne pas vouloir imposer son avis, supporter l'insulte, haïr le repos au sens que ça a chez les pères, c'est-à-dire le confort, la recherche du confort et de la satisfaction corporelle. S'astreindre au labeur, ne pas avoir peur de la peine, veiller à retrancher sa volonté et n'irriter personne. Vous voyez que finalement tout se résume dans l'humilité. Et comme je vous disais, toutes les pratiques d'ascèse ne sont qu'un langage pour exprimer l'humilité avec notre corps lui-même. Mais Saint Dorothée de Gaza précise, même si nous ne pouvons, faibles comme nous le sommes, accomplir de pénibles travaux, tâchons de nous humilier. Et j'ai confiance à la miséricorde de Dieu que le peu que nous aurons fait humblement nous vaudra d'être, nous aussi, parmi les saints, d'accomplir de grands labeurs au service de Dieu. Donc l'important, c'est cette humilité, n'est-ce pas? Et, bon, traduisons-la à notre mesure, autant que nous le pouvons dans notre vie, par notre comportement corporel lui-même, mais étant toujours convaincu que tout est relatif à l'humilité et que c'est seulement dans la mesure où toute cette ascèse, où tout notre effort chrétien traduit, exprime, incarne l'humilité en nous, qui peuvent produire du fruit pour le royaume de Dieu.